Manifestement, la campagne Clinton a senti le vent tourner. Jusque-là, Hillary et son équipe avaient en grande partie évité la confrontation directe, se contentant de rester au-dessus de la mêlée et de soigner leur avance confortable dans les sondages nationaux. Mais au cours des semaines suivantes, ils ont changé de braquet et décidé de s'en prendre à nous sans retenir leur coup. C'était des critiques assez classiques, des remarques sur mon manque d'expérience, des remises en question de ma capacité à tenir tête aux républicains à Washington. Malheureusement pour eux, ces deux angles d'attaque se sont retournés contre eux. Le premier concernait l'un des points récurrents de mon discours de campagne, à savoir que je me présentais non pas parce que j'avais toujours voulu devenir président ou que j'y étais naturellement destiné, mais parce que l'époque exigeait le changement. Or, l'équipe Clinton est allée dénicher un article de presse dans lequel l'un de mes enseignants en Indonésie affirmait que j'avais écrit un texte à l'école primaire où je racontais que je voulais devenir président quand je serais grand, preuve irréfutable apparemment que mon idéalisme revendiqué n'était qu'une façade dissimulant une ambition dévorante. Cette histoire m'a bien fait rire. Comme je l'ai dit à Michel, l'idée que quiconque en dehors de ma famille se rappelle quoi que ce soit que j'ai pu dire ou faire près de 40 ans plus tôt était un peu tirée par les cheveux. Sans parler du fait que les plans que j'avais manifestement ourdis à un âge précoce pour devenir le maître du monde ne cadraient pas très bien avec mes notes médiocres et ma consommation de psychotropes à l'époque du lycée, mon obscur parcours dans le milieu associatif et mes liens avec toutes sortes de personnalités politiques peu recommandables. Bien entendu, les 10 années à venir allaient nous apprendre que, quand bien même elles étaient grotesques, incohérentes et farfelues au possible, rien n'empêchait les théories les plus fumeuses circulant sur mon compte, alimentées par des adversaires politiques, des organes de presse conservateurs ou des biographes critiques, de se répandre et d'être prises au sérieux. Mais en décembre 2007, la campagne de dénigrement lancée par l'équipe Clinton sur la foi de ce que j'appelais « mes dossiers secrets du bac à sable » a été interprétée comme un signe de panique et largement dénoncée dans la presse. La deuxième attaque était moins amusante. Billy Shaheen, co-directeur de la campagne de Clinton dans le New Hampshire, a déclaré à un journaliste que le fait que j'ai pris de la drogue quand j'étais jeune, ce dont je ne m'étais pas caché, me serait fatal dans un duel contre le candidat républicain désigné. En règle générale, je ne pensais pas que mes frasques de jeunesse constituaient un sujet hors limite, mais Shaheen est allé un peu plus loin, laissant entendre que j'avais peut-être également trafiqué de la drogue. Son interview a fait scandale et Shaheen a très vite démissionné de son poste. Tout cela s'est passé juste avant notre dernier débat dans l'Iowa. Ce matin-là, Hillary et moi étions tous les deux à Washington pour participer à un vote au Sénat. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport pour nous envoler vers Des Moines, le hasard a voulu que l'avion affrété par la campagne Clinton se trouve juste à côté du nôtre. Avant le décollage, Uma Abedin, l'assistante personnelle de Hillary, est allée voir Reggie pour l'informer que la sénatrice désirait me parler. J'ai rejoint Hillary sur le tarmac, tandis que Reggie et Uma faisaient les 100 pas autour de nous à quelques mètres de distance. Hillary m'a présenté ses excuses au nom de Shaheen. Je l'ai remercié, puis je lui ai suggéré que nous soyons l'un et l'autre plus vigilants avec nos lieutenants. Elle a alors commencé à s'emporter et à monter dans les aigus, affirmant que mon équipe lançait régulièrement des attaques injustifiées, déformait ses propos et se livrait à toutes sortes de coups bas. J'ai tenté de faire redescendre la température, en vain. Notre conversation s'est achevée de manière abrupte et Hillary a grimpé dans son avion visiblement toujours furibonde. Pendant le vol, j'ai essayé de comprendre les frustrations que devait éprouver Hillary. Femme d'une immense intelligence, elle ne s'était épargnée aucun effort, aucun sacrifice. Elle avait subi quantité d'attaques et d'humiliations publiques pour le bien de la carrière de son mari, tout en élevant une fille formidable. Après la Maison-Blanche, elle avait réussi à se forger une nouvelle identité politique et à se positionner, avec talent et ténacité, comme la favorite incontestable dans la course à la présidentielle. En tant que candidate, elle avait réalisé un parcours presque sans faute, coché toutes les cases, remporté la plupart des débats et amassé un trésor de guerre impressionnant. Et voilà qu'elle se retrouvait soudain au coude à coude avec un homme de 14 ans son cadet qui n'avait pas eu autant qu'elle à faire ses preuves, qui n'avait pas payé le même tribut au combat politique, à qui tout paraissait sourire et à qui semblait systématiquement accorder le bénéfice du doute. Honnêtement, qui n'aurait pas été énervé à sa place. Par ailleurs, Hillary n'avait pas tout à fait tort quand elle accusait mon équipe de rendre coup pour coup. Comparé aux autres campagnes présidentielles dans l'histoire récente, nous étions vraiment différents. Nous insistions de manière systématique sur l'aspect positif de notre message et mettions l'accent sur les idées que je défendais plutôt que sur celles que je combattais. Je veillais à chaque instant à ce que le ton de notre campagne demeure respectueux. Il m'est arrivé plus d'une fois de censurer un spot télé qui me semblait injuste ou trop dur à l'égard de mes adversaires. Néanmoins, nous n'étions pas toujours à la hauteur de cette noble rhétorique. L'épisode qui m'a le plus mis hors de moi pendant la campagne est d'ailleurs lié à la fuite d'un de nos propres mémos, rédigé au mois de juin par notre équipe de recherche, qui critiquait le soutien tacite de Hillary aux délocalisations en Inde, sous un titre perfide, Hillary Clinton, représentante démocrate du Pendjab. Mes collaborateurs juraient leur grand Dieu que ce document n'avait jamais eu vocation à être rendu public, mais peu m'importait. J'étais ulcéré par sa vulgarité et ses relents nativistes, et je n'ai pas décoléré pendant plusieurs jours. Au fond, je ne crois pas que cette escarmouche avec Hillary sur le tarmac de l'aéroport ait été causée par telle ou telle manœuvre de notre part. Elle était plutôt due au seul défi que je représentais désormais pour elle, à l'intensité grandissante de notre rivalité. Il y avait encore 6 autres candidats en lice, mais les sondages commençaient à clarifier la situation, laissant présager que Hillary et moi allions nous retrouver seuls à nous affronter jusqu'au bout. C'était une dynamique avec laquelle nous allions vivre, jour et nuit, week-end et jours fériés compris, pendant encore de nombreux mois, chacun flanqué de notre équipe comme d'une armée miniature, chacun des membres de notre staff respectif entièrement investi dans le combat. Je découvrais que cela faisait partie de la nature brutale de la politique moderne. La difficulté de participer à une compétition qui n'obéissait à aucune règle clairement définie, à un jeu dans lequel vos adversaires n'essayaient pas simplement de mettre un ballon dans un panier ou au fond des filets, mais s'efforçaient de convaincre le grand public, du moins de manière implicite et le plus souvent de manière explicite, que, en termes de jugement, d'intelligence, de valeur et de personnalité, il valait mieux que vous. Vous avez beau vous dire que tout cela n'a rien de personnel, ce n'est pas comme ça que vous le vivez. Ni vous, ni moins encore votre famille, votre staff ou vos supporters, qui tiennent le compte de chaque affront et de chaque insulte, réelle ou perçue comme telle. Plus la campagne avance, plus la compétition se resserre, plus l'enjeu est de taille, et plus il devient facile de justifier les tactiques agressives. Tant et si bien qu'on finit par considérer les comportements humains les plus élémentaires qui gouvernent notre existence de tous les jours, l'honnêteté, l'empathie, la courtoisie, la patience, la bienveillance, comme des faiblesses si jamais on a le malheur de les témoigner au camp adverse. Je ne pourrais guère prétendre que j'avais toutes ces réflexions en tête le lendemain soir en entrant sur scène pour débattre. Sur le moment, j'ai interprété l'irritation de Hillary avant tout comme un signe révélateur, la preuve que nous étions en train de nous détacher, que c'était bien nous qui avions la main. Au cours du débat, le modérateur, rappelant que je ne cessais d'affirmer que les États-Unis devaient changer d'approche sur les questions des relations internationales, m'a demandé pourquoi, dans ce cas, je comptais dans mon entourage tant d'anciens conseillers de l'administration Clinton. « Ah oui, ça, je serais très curieuse de le savoir », a dit Hillary en se penchant bien vers son micro. J'ai attendu que les gloussements dans le public se dissipent. « Eh bien, Hillary, je serais ravi de vous compter vous aussi parmi mes conseillers. » Ça a été une belle soirée pour notre équipe. À un mois du caucus, un sondage du Des Moines Register me donnait 3 points d'avance sur Hillary. Le sprint était lancé. Les candidats des deux partis ont passé ces dernières semaines à courir d'un bout à l'autre de l'Iowa pour essayer de séduire les électeurs qui n'avaient pas encore fait leur choix, pour aller chercher dans leur tanière et motiver tous ceux qui risquaient de ne pas se déplacer le soir du vote. Les équipes de Clinton s'étaient mises à distribuer gratuitement des pelles à neige à leurs partisans au cas où la météo ferait des caprices, et Hillary s'est lancée dans une opération blitzkrieg qui lui serait par la suite reprochée en raison de son coût exorbitant, affrétant un hélicoptère, baptisé le « Hélicoptère », pour visiter 16 comtés d'affilée. John Edwards, de son côté, essayait de couvrir le même terrain à bord d'un bus. Nous avons eu, nous aussi, quelques grands moments, notamment une série de meetings avec Oprah Winfrey, qui était devenue une amie et l'un de nos plus fervents soutiens, et qui s'est révélée aussi intelligente, drôle et élégante sur la scène de la campagne qu'elle l'était dans la vie. Elle a attiré à elle seule près de 30 000 personnes en 2 fois dans l'Iowa, 8 500 dans le New Hampshire et encore près de 30 000 en Caroline du Sud. Ces rassemblements survoltés nous ont permis de gagner la confiance de nouveaux électeurs dont nous avions grand besoin. Beaucoup de membres de mon staff, je dois le dire, étaient en admiration devant Oprah. À l'exception prévisible d'Emily. La seule personnalité célèbre qu'elle a jamais exprimé le désir de rencontrer était le présentateur de NBC, Tim Russert. Au bout du compte, cependant, ce ne sont ni les sondages, ni les meetings géants, ni les stars qui m'ont le plus marqué, mais plutôt l'ambiance familiale qui régnait sur ses derniers jours de campagne. La franchise et la sincérité de Michel se sont révélées des atouts précieux. Elle était dans son élément sur le terrain. L'équipe de l'Iowa lui avait même trouvé un surnom, la décisive, à cause du nombre de personnes qui décidaient de nous donner leur suffrage une fois qu'elles l'avaient entendu parler. Nos familles et nos amis les plus proches sont tous venus dans l'Iowa. Craig de Chicago, Maya de Hawaï et Aoma du Kenya. Les Nesbitt, les Whittaker, Valérie, ainsi que tous leurs enfants, sans parler de la kyrielle d'oncles, de tantes et de cousins du côté de Michel. Des amis d'enfance de Hawaï, de vieux copains du monde associatif à Chicago et des bancs de la fac à Harvard, d'anciens collègues du Sénat de l'Illinois, ainsi qu'un grand nombre de nos donateurs ont également fait le déplacement, arrivant par grappes entières comme des groupes de touristes, souvent même sans que je sois au courant qu'ils étaient là. Personne ne réclamait la moindre attention particulière. Ils se rendaient simplement au bureau de campagne du coin, où un gamin leur tendait un plan de la ville et une liste de contacts parmi nos soutiens pour qu'ils puissent passer la semaine entre Noël et le Nouvel An, bloc-notes à la main, à faire du porte-à-porte dans le froid glacial. Mais il ne s'agissait pas uniquement de ces gens auxquels nous étions liés par le sang ou par de longues années d'amitié. Les habitants de l'Iowa, avec qui j'avais passé tant de temps, avaient fini eux aussi par constituer une sorte de famille. Il y avait des dirigeants locaux du Parti démocrate, comme le procureur général Tom Miller et le trésorier Mike Fitzgerald, qui avaient parié sur moi à une époque où peu de gens s'y seraient risqués. Il y avait des bénévoles tels que Gary Lamb, un agriculteur progressiste du comté de Tama qui nous a aidés à percer dans les zones rurales de l'État. Léo Peck, qui, à 82 ans, avait frappé à plus de portes que n'importe qui d'autre. Marie Ortiz, une infirmière afro-américaine qui vivait avec son mari d'origine hispanique dans une ville majoritairement blanche, et qui venait trois ou quatre fois par semaine dans nos locaux démarcher au téléphone, apportant parfois de petits plats au responsable du bureau parce qu'elle trouvait qu'il avait besoin de se remplumer. Une famille. Et puis, bien sûr, il y avait les organisateurs sur le terrain. Même s'ils étaient déjà débordés de travail, nous avons décidé de leur demander d'inviter leurs parents à la soirée Jefferson Jackson. Et le lendemain, nous avons donné une réception en leur honneur, afin que Michel et moi puissions remercier chacun d'entre eux et féliciter leurs parents d'avoir élevé des enfants aussi formidables. Aujourd'hui encore, je serai prêt à remuer ciel et terre pour ces gamins. Puis, le grand soir est arrivé. Ce jour-là, Plouf et Valérie ont décidé de se joindre à Reggie, Marvin et moi pour une visite improvisée dans un lycée d'Ankeny, une banlieue de Des Moines, où se tiendraient les caucus de plusieurs circonscriptions. Nous étions le 3 janvier, il était un peu plus de 18 heures, moins d'une heure avant le début des caucus, et la salle était déjà noire de monde. Les gens affluaient de toutes parts vers le bâtiment, formant un bruyant défilé où se déployaient toutes les couleurs du genre humain. Aucune tranche d'âge, aucune origine ethnique, aucune classe sociale, aucune physionomie ne paraissait sous-représentée. Il y avait même un homme aux allures de vieillard qui s'était déguisé en Gandalf, le sorcier du Seigneur des Anneaux, avec une longue tunique blanche, une barbe blanche en panache, et un gros bâton de bois à l'extrémité duquel il s'était débrouillé pour fixer un petit écran vidéo sur lequel passait en boucle un extrait de mon discours à la soirée Jefferson Jackson. Il n'y avait pas de journaliste pour une fois, et j'ai pris le temps de déambuler parmi la foule, de serrer des mains et de remercier tous ceux qui comptaient voter pour moi, demandant aux personnes qui allaient donner leur suffrage à un autre candidat de bien vouloir au moins faire de moi leur deuxième choix. Certains avaient des questions de dernière minute à me poser sur ce que je pensais de l'éthanol, ou sur ce que je comptais faire contre la traite des êtres humains. Beaucoup venaient me dire qu'ils n'avaient encore jamais participé à un caucus, certains n'avaient même jamais voté, et que notre campagne les avait poussés à s'impliquer pour la première fois de leur vie. « Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas que je comptais », m'a dit une femme. Sur le chemin du retour à Des Moines, personne ne parlait. Chacun essayait de prendre la mesure du miracle auquel nous venions d'assister. Je regardais défiler les centres commerciaux, les maisons, les réverbères, à moitié flous derrière la vitre recouverte de givre, et j'éprouvais un profond sentiment de paix. Quelques heures encore nous séparaient du verdict. Quand les résultats tomberaient enfin, ils indiqueraient que nous avions remporté une victoire décisive dans l'Iowa, obtenant une majorité de voix dans presque tous les segments de la population, et que ce succès était largement dû à une participation sans précédent, grâce aux dizaines de milliers de personnes qui étaient venues voter pour la première fois. Je ne savais encore rien de tout cela, mais au moment de quitter Ankeny, un quart d'heure environ avant le début de la soirée électorale, j'étais persuadé que nous avions accompli, fût-ce de manière éphémère, quelque chose d'authentique et de noble. Là-bas, dans ce lycée niché au cœur du pays, par une nuit d'hiver glacial, j'avais enfin rencontré la communauté que je cherchais depuis si longtemps, l'Amérique que j'imaginais, soudain incarnée. J'ai alors pensé à ma mère, à la joie que lui aurait inspiré ce spectacle, à la fierté qu'elle en aurait conçue. À cet instant, elle m'a manqué terriblement, et Plaoff et Valérie ont fait semblant de ne rien voir quand j'ai essuyé mes larmes.